Vous écoutez RTL. RTL Matin, édition spéciale.
Yves Calvi.
7h35 sur RTL. Monsieur le Président de la République, bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Merci d'avoir choisi RTL en cette journée de conférence sociale attendue avec circonspection. Dans un instant, vous répondez à Olivier Mazerollet et François Langlais. Et puis à partir de 8h, ce sera donc le jeu du question-réponse avec nos auditeurs et ce pendant une demi-heure. Monsieur le Président, je rappelle que la CGT ne participe pas à votre conférence sociale. Et la semaine dernière, c'est un de ces syndiqués qui refusait de vous serrer la main. Comment avez-vous vécu cet affront ?
La politesse, c'est toujours... important dans toute relation humaine. Mais ce que j'attends des organisations syndicales, c'est pas de la politesse, c'est de l'engagement pour le dialogue. Et c'est ça, la conférence sociale. Et ce que je veux exprimer aux Français, au-delà de ceux qui seront conviés à cette conférence, ou ceux qui n'y viendront pas, c'est que nous devons vivre dans une société apaisée. Il y a toujours des conflits, toujours des confrontations, il y a toujours des intérêts qui sont divergents. Comment les surmonte-t-on ? Par... De la violence ? Sûrement pas. Par de l'apaisement ? Donc par le dialogue. Et l'objet même de la conférence sociale, c'est de se donner une feuille de route pour l'année qui vient, pour aborder les grandes questions qui sont posées au pays, c'est-à-dire d'abord les questions d'emploi, de formation et de préparation de l'avenir.
Ma question était plus personnelle. On vous a vu écouter sans sourciller ce délégué syndical. Vous auriez peut-être pu faire respecter la fonction présidentielle de façon plus marquée. Non, refuser la main d'un président, ce n'est pas rien.
Mais moi, je considérais que j'étais dans une entreprise, une grande entreprise, les chantiers navals de Saint-Nazaire, où j'ai été reçu par l'ensemble des salariés avec plus que de la politesse, de la chaleur. Parce que c'est une entreprise qui s'est redressée, parce que c'est une entreprise qui crée de l'emploi. C'est une entreprise qui a un carnet de commandes jusqu'en 2020. Un syndicaliste vient vers moi et veut me parler d'une autre entreprise. Je peux l'entendre, Air France, parce qu'il y a un conflit, qui doit d'ailleurs être réglé par le dialogue social. Il préfère ne pas me serrer la main. Je vais m'en aller, je vais prononcer une phrase, vous savez, il y en a eu, qui pourrait être également regardée comme vulgaire ou grossière. Sûrement pas. Moi, je le regarde en face. Il veut me parler, qu'il me parle. Il ne veut pas me serrer la main, tant pis pour lui. Parce que dans la vie, celui qui manque de respect, c'est celui qui commet la faute, pas celui qui est l'objet de cette indélicatesse.
Première question d'Olivier Mazerollet.
Bonjour Monsieur le Président. Question complémentaire, il fallait aller chercher les salariés à 6h du matin, les salariés d'Air France à 6h du matin chez eux, devant leurs enfants.
Olivier Mazerollet, bonjour. C'est la justice qui décide d'interpellation. C'est pas le gouvernement, c'est pas moi qui, un beau matin, ai pris mon téléphone et demandé à des policiers de se rendre au domicile de salariés qui avaient, l'enquête le dira, commis ou pas des violences. C'est la justice, c'est le procureur, en l'occurrence c'est une femme, procureur de Bobigny, qui a pris cette décision de manière indépendante. Et si je commence à faire un commentaire sur ce qu'elle a fait, elle, cette procureure, ou ce qu'auraient fait d'autres magistrats, procureur ou juge d'instruction, alors je me perdrais, parce que je suis respectueux de l'indépendance. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres méthodes pour interpeller, mais ce n'est pas à moi de le dire.
Alors, Yves Calvi le rappelait, la CGT ne sera pas présente à la conférence sociale tout à l'heure, et son secrétaire général, Philippe Martinez, dit « mais cette conférence, finalement, elle ne traite pas les vrais sujets, elle ne traite pas la brutalité sociale, et d'ailleurs, ça va exploser. Est-ce que vous redoutez une explosion sociale en France ?»
Vous savez, il y a toujours des champions du thermomètre. Je ne mets pas en cause ici ceux qui annoncent le climat. Mais il y a toujours un certain nombre d'observateurs, mais le dirigeant de la CGT n'est pas un observateur, qui veulent toujours qu'il y ait une marmite qui chauffe et qui explose. Non. Le conflit à Air France ne résume pas l'état de la France. Et ce serait se tromper gravement sur la situation du pays que de prendre un sujet, il doit être traité. Air France, l'État d'ailleurs n'y est actionnaire que de manière très minoritaire, pour en faire un cas général. La conférence sociale, c'est non pas la seule journée où on va parler entre syndicats, patronat et gouvernement. C'est pas une journée où on va conclure des accords. Il s'est trouvé, on va y revenir, qu'il y a eu des accords très importants, notamment un qui a été signé ces jours derniers. Donc, des lieux de rencontre, il y en a. Mais qu'est-ce que c'est que la conférence sociale, pour que les auditeurs comprennent bien ? C'est un moment, une journée, où on va se consacrer à toutes les questions qui doivent être traitées dans les mois qui viennent. Je vais les citer. Je vais les citer. Un, le compte personnel d'activité, la sécurisation des parcours. On va revenir dans le détail. C'est une question très importante. Il se trouve que la CGT en avait fait même son thème principal. Elle ne vient pas. Tant pis, on va traiter le sujet. Et puis, il y aura d'autres rendez-vous. Et la CGT, comme d'autres organisations syndicales, ils viendront. Il y aura le numérique, la transition énergétique, l'emploi des jeunes. Voilà les sujets.
Est-ce qu'on peut d'abord approfondir un peu sur Air France ? Bon, l'entreprise est dans des graves difficultés, à la fois économiques et sociales. L'État est au capital d'Air France, vous l'avez rappelé. C'est le premier actionnaire. Puis, il y a 15 jours, les représentants de l'État ont approuvé unanimement un plan de restructuration présenté par la direction. Et puis la semaine dernière, Volteface, vous-même, vous dénoncez la violence sociale des patrons qui suppriment des emplois. Ça donne le sentiment d'un pilotage un peu au gré du vent, au fond. Est-ce que vous soutenez toujours, sans réserve, la direction d'Air France et son président aujourd'hui ?
Question qui vous est posée par François Langlais.
Bon, ne confondons pas, on m'a interrogé sur la brutalité. Il peut y avoir des décisions brutales, commises, on en a à l'esprit, par des patrons qui partent du jour au lendemain, liquident leur entreprise, fuient à l'étranger. C'est pas le cas d'Air France. Vous n'avez pas entendu parler d'Air France sur ce sujet ?
C'est arrivé juste après un épisode d'Air France.
Non, mais des patrons qui se comportent mal, il y en a heureusement assez peu, mais ça peut arriver. Je me souviens d'ailleurs d'un de mes prédécesseurs qui avait parlé de patron voyou. Je n'ai pas utilisé cette expression. En revanche, il y a à Air France un sujet, qui est celui de remettre l'entreprise en capacité d'être compétitive. Quelle est la méthode ? La méthode, ça doit être la vérité des chiffres, le dialogue, dialogue avec les pilotes, la négociation, et négociation aussi avec les salariés. Il n'y a pas eu la réussite avec les pilotes. Il faut reprendre donc le dialogue, parce que s'il n'y a pas un accord avec les pilotes, il y a un risque d'emploi perdu, supprimé dans l'entreprise Air France,
justement,
et d'où
Alexandre
la colère
Gignac,
d'un certain nombre de salariés.
Il évoquait hier 1000 suppressions d'emplois pour 2016. Est-ce que c'est opportun ? Est-ce que ça vous paraît être la bonne voie pour remettre à flot l'entreprise ?
Il y a une réunion jeudi, et je demande aussi bien à la direction qu'aux partenaires sociaux d'être responsables. Pourquoi ? Parce qu'on peut éviter des licenciements à Air France. Si les pilotes font les efforts nécessaires, si la direction fait des propositions, et si les personnels au sol sont aussi conscients de certaines réalités. Nous pouvons éviter les licenciements. Alors, quand nous sommes dans cette situation, chacun doit faire la part du chemin. C'est ça, le dialogue social. On m'interroge, à quoi ça sert le dialogue social ? Ça sert à trouver une solution. Et Air France, c'est pas parce qu'il y a eu trop de dialogue social, c'est parce qu'il n'y en a pas eu assez. Donc, jeudi, il y a une réunion très importante, et je propose que la direction, avec les organisations syndicales, fasse les efforts nécessaires pour arriver à la compétitivité d'Air France, parce que s'il n'y a plus de compagnie, il n'y aura plus d'emplois. Et en même temps, permettre qu'il n'y ait pas de licenciement à Air France.
Sur le dialogue social, effectivement, il y a eu vendredi un accord qui a surpris tout le monde entre le patronat et quelques syndicats sur les retraites complémentaires. Mais tous les syndicats n'ont pas signé, la CGT et FO n'ont pas signé. Et surtout, cet accord entérine de fait un allongement de passage de l'âge de la retraite de 62 ans à 63 ans à taux plein. Vous êtes d'accord avec ce résultat ?
D'abord, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que dit cet accord. À taux plein, oui, mais je vais revenir parce que c'est très important. Ce sont les partenaires sociaux qui ont signé cet accord sur les retraites complémentaires.
Pas tous, hein ?
Pas tous, mais une majorité d'entre eux. Ce qui fait, c'est que cet accord est valide. Et c'est quand même un acte très important, parce que ces régimes complémentaires, indispensables pour partir en retraite, il ne suffit pas d'avoir le régime général, il faut aussi avoir les compléments ARCO, AGIRC, chacun ici sait de quoi il s'agit, et nos auditeurs en particulier. Donc ces régimes, notamment pour l'ARCO, étaient en quasi impasse financière d'ici 3 ou 4 ans, 12 ans pour l'AGIRC. Il fallait donc une réforme. Les partenaires sociaux ont décidé de cette réforme. Que dit-elle ? Et je vais être très précis. L'âge légal de départ à la retraite, c'est toujours 62 ans.
Oui, avec moins d'argent.
À partir de 2019.
Oui, monsieur le président, attendez, moins d'argent.
À partir de 2019, ceux qui voudront partir à 62 ans auront ce qu'on appelle une décote de 10%.
Ah oui.
C'est ce que vous dites, mais ce n'est pas un report de l'âge de la retraite. Ils feront leur choix. C'est une liberté qui leur est accordée. Ça durera trois ans cette décote, oui, et ensuite ils retrouveront contre, hein. Et ensuite ils retrouveront le taux plein. Tout ça pour les salariés qui partiront en 2019. Ceux qui voudront rester jusqu'à 63
exact,
ans auront
un taux plein. C'est un choix contraint, même, monsieur le président.
C'est un choix. Alors effectivement, il y a une incitation plutôt à rester ou une dissuasion à partir. Mais on peut toujours, à partir de 2019, partir en retraite avec cette condition. Deuxièmement, les employeurs, patronat, ont accepté d'augmenter les cotisations, d'augmenter leur contribution au régime. Chacun a
qui
donc fait
par ailleurs.
Chacun bon, a donc fait un pas en direction de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a eu un accord. Et ce que nos auditeurs doivent comprendre, c'est que maintenant, les régimes de retraite, régime général que nous avons réformé en 2014, régime complémentaire, les régimes de retraite sont pérennisé jusqu'en 2030.
Justement,
il n'y a plus d'inquiétude à avoir par rapport aux retraites.
Après cette réforme, l'écart entre les salariés du privé, qui étaient concernés justement par l'accord Agirc-Arrco, et les régimes spéciaux va atteindre presque 10 ans pour l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire que vous êtes salarié du privé pour avoir une retraite à taux plein, vous allez attendre 63 ans. Vous êtes par exemple à la RATP, vous pouvez partir à 54 ans. Est-ce que l'homme de gauche que vous êtes se satisfait de cette inégalité criante en matière de départ à la retraite?
Vous venez de confirmer que une réforme, celle qui nous avait été présentée il y a 6 ou 7 ans, n'a pas donc porté ses fruits.
De fait,
vous me le confirmez.
Je vous le confirme, absolument.
Donc, les régimes spéciaux dont on nous avait dit qu'ils avaient été réformés n'ont pas modifié
mais
les mécanismes.
Mais l'écart est encore élargi par la réforme de vendredi dernier.
Ce qui a été fait, et ce qui doit être encore confirmé par la réforme que nous avons fait voter en 2014, c'est que, à mesure que l'espérance de vie va s'allonger, car nous allons vivre plus longtemps, eh bien, la durée de cotisation va elle-même s'allonger. Ça vaudra pour le régime général, pour le régime complémentaire et pour les régimes spéciaux. J'ai voulu, dans cette réforme de 2014, que tous les régimes soient concernés par ce principe simple que chacun peut comprendre.
Est-ce que vous ne condamnez pas les seniors au chômage dans un pays où le taux de chômage des seniors a progressé de 9,4% sur un an, en justement les obligeant à rester sur le marché de l'emploi un peu plus longtemps?
Mais vous avez tout à fait raison. Les employeurs ne peuvent pas essayer de garder leurs salariés pour qu'ils puissent ne pas partir à la retraite, et en même temps tout faire pour certains, pour les écarter du marché du travail. Donc j'ai demandé, et ça sera aussi l'objet de la conférence sociale, que les partenaires sociaux, syndicats et employeurs, puissent, sur cette question de l'emploi des seniors, tout faire pour que ceux qui veulent travailler plus longtemps puissent le faire et ne pas être écartés du marché du travail. Mais pas à 62 ans, 63 ans. Beaucoup le sont à 58 ans ou à 59 ans. C'est inadmissible.
Monsieur le Président,
Olivier Mazerolle.
La conférence sociale, précisément, vous allez parler de quelque chose qui s'appelle le compte personnel d'activité. On a du mal à comprendre de quoi il s'agit. Et finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train de créer une sorte d'usine à gaz nouvelle? Parce que finalement, permettre aux salariés de conserver tous leurs droits, même quand ils sont au chômage, c'est très important, c'est sûr. Mais il manque l'élément essentiel, c'est un organisme, un pôle emploi qui soit en mesure de fonctionner pour permettre aux salariés d'avoir une véritable formation, de ne pas rester en rade.
Il y a plusieurs questions dans votre interpellation. La première, c'est qu'est-ce que nous voulons donner à chaque salarié à travers ce compte personnel d'activité, un capital, un patrimoine qui lui appartienne en propre, qui sera fonction de son ancienneté. À mesure qu'il travaillera, il accumulera des points, du temps, pour la formation, pour éventuellement partir plus tôt à la retraite, ou pour avoir une occasion de se lancer dans un projet personnel. Donc, ce compte personnel, c'est ce qu'il aura tout au long de sa carrière. S'il change d'emploi, ce qui arrive de plus en plus souvent, il gardera les points qu'il a réussi à accumuler. S'il passe au chômage, hélas, ça peut se produire. Il aura la capacité d'utiliser cette dotation de formation pour avoir le meilleur emploi.
Et le patron qui embauche un salarié qui arrive en disant « Écoutez, regardez sur mon livret, j'ai tant de jours de RTT, tant de jours de formation. Honnêtement, est-ce qu'il va choisir ce salarié-là? Est-ce que finalement, cette mesure ne va pas se retourner contre les salariés ?
On ne peut pas priver un salarié de ses droits. S'il change d'emploi, c'est pour l'employeur, pour lui permettre d'avoir une promotion ou d'une meilleure qualification. Il a donc intérêt à ce que la formation qui est prévue sur son compte, celui du salarié, ne coûte rien à l'entreprise. Ça ne coûtera rien à l'entreprise.
Ça coûtera à qui ? Il y a bien quelqu'un qui va payer.
Bien sûr, mais c'est dans le système que nous connaissons, c'est Pôle emploi lorsque le salarié est au chômeur, ou ce sont les lieux de formation qui sont ceux des branches professionnelles qui assurent cette requalification. Donc c'est un capital très important que le salarié va pouvoir utiliser à sa guise. Et ensuite, vous avez raison, Monsieur Mazerolle, il faut que Pôle emploi soit capable de proposer des formations.
Ça fait des années qu'on nous dit ça.
Toujours dans une conférence sociale, celle qui avait eu lieu il y a 2 ans, nous avons réformé le système de formation et nous avons permis que tous ces emplois qui sont proposés par un certain nombre d'entreprises et qui ne sont pas pourvus, il y en a 150 000, eh bien, nous avons décidé de former des demandeurs d'emploi à l'exercice de ces métiers.
Aujourd'hui, un chômeur, Monsieur le Président, un chômeur, il n'a pas d'interlocuteur.
Eh bien, c'est pas vrai. Pôle emploi, il y a des interlocuteurs. C'est un service public qui doit être encore amélioré, mais qui fonctionne. Et chaque demandeur d'emploi, et j'en prends ici l'engagement, se verra proposer une formation allant véritablement vers un débouché et vers un métier.
Au bout de quelle durée de chômage ?
Je pense qu'il ne faut pas avoir même de conditions.
C'est-à-dire, dès qu'on sera inscrit à Pôle emploi,
une formation doit être proposée.
Et ça sera à quelle échéance ? Enfin, ça marchera quand ?
Ça doit marcher d'ici la fin du quinquennat, puisque c'est une opération que j'ai voulu lancer et qui doit concerner 150 000 emplois.
Avec une dégressivité des allocations chômage, si ça traîne un peu trop ?
Alors, il va y avoir une négociation, là aussi, l'UNEDIC, puisque la convention UNEDIC vient à expiration l'année prochaine. Donc ça sera très important que nous puissions donner des incitations à la reprise du travail et en même temps garantir des droits, parce qu'on ne peut pas non plus précariser ceux qui sont aujourd'hui exclus du marché du travail.
Il y a un mois, un référendum s'est tenu dans une entreprise française, dans la Moselle, Smart, qui fabrique des voitures, et les salariés, pour préserver l'emploi, ont accepté de remettre en cause les 35 heures. Les syndicats sont contre et bloquent tout accord avec la direction. Et dans un cas comme celui-ci, qui doit l'emporter ? Est-ce que c'est le référendum fait auprès des salariés ou bien les partenaires sociaux qui bloquent ? Autrement dit, le référendum n'est-il pas un outil qui devrait être utilisé davantage ? Il y a un sondage récent qui montre que 83% des Français semblent favorables à la multiplication de ces référendums d'entreprise.
Un référendum dans le pays, chacun fait campagne et s'exprime librement. Référendum dans une entreprise, c'est quand même plus difficile. Ça peut ne pas être exclu. Mais il y a des pressions qui peuvent se faire. Ça se joue sur l'emploi, ça se joue sur le salaire, ça se joue sur la promotion. Ça ne peut pas être une méthode qui puisse être répétée autant que certains le voudraient. Donc, il faut des organisations représentatives. S'il n'y a plus d'organisations représentatives, s'il n'y a plus de syndicats, s'il n'y a plus de représentants des employeurs... Attendez, je termine là-dessus. Vous pensez que si les salariés sont pour, les organisations syndicales ne vont pas avoir un moment une réflexion pour adapter leur comportement. Et on le voit bien pour le travail le dimanche.
Oui.
Ça a été un grand sujet.
C'est ce qui se passe.
Sur le travail le dimanche, aujourd'hui, il y a des négociations qui sont en cours. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de salariés qui veulent travailler le dimanche.
Et
les organisations syndicales sont amenées à en tenir compte.
Monsieur le Président, vous vous rendez compte quand même de ce que vous êtes en train de décrire comme situation ? Vous avez des salariés qui sont favorables à des mesures et les syndicats qui disent non, à quoi servent-ils
Attendez, monsieur Mazerolle, j'ai pris 2 exemples.
Oui.
Un exemple où, dans une entreprise, on demande à remettre en cause la durée du travail, c'est-à-dire, en l'occurrence, les 35 heures. Donc les salariés ont à perdre. Dans l'affaire du travail du dimanche, ceux qui sont volontaires ont tout à gagner, puisqu'on leur propose une surrémunération. Donc, il est tout à fait logique que dans un cas, le travail le dimanche, ce soit sur une demande de volontariat, alors que dans une entreprise, on ne peut pas imposer à un salarié qui n'est pas d'accord un autre régime
Monsieur
de droit du travail ou de durée du travail. C'est assez simple à comprendre de ce point de vue-là. Il y a un cas où vous gagnez, un cas où vous perdez.
Vous nous avez rappelé au début de l'interview que vous voulez réformer la France de manière apaisée. C'est le sens du dialogue social qui, pour vous, est quelque chose de stratégique pour votre quinquennat. Mais est-ce que vous avez des partenaires ? Les syndicats ne sont pas vraiment représentatifs des salariés français. Et on vient d'évoquer des cas où on voit qu'ils font de la réforme, mais en ayant le pied appuyé sur la pédale de frein.
Mais monsieur Mazerolle, s'il n'y a plus de représentants, avec qui vous discutez ? Vous allez faire des référendums sur tout sujet ?
Les salariés vous dit Nicolas Sarkozy vous dit discuter directement avec les salariés.
De propositions qui sont faites par un certain nombre de personnalités qui étaient au pouvoir et qui ne se sont pas lancées dans ce type d'aventure. Quand il n'y a plus de représentants nulle part, discuter avec qui ? Avec les paysans lorsqu'ils manifestent, vous allez voir dans les manifestations comment ça se passe ? Avec les employeurs qui veulent se faire entendre sur un nouveau régime fiscal, vous discutez avec qui ? Nous avons besoin de représentants qualifiés, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Et s'il n'y a plus cet échelon-là, alors nous sommes dans une forme de désordre, de confrontation et de violence. Et moi, qu'on ne compte pas sur moi. Parce que là, je pense que c'est un sujet très important. Dans quelle société voulons-nous vivre ? On veut vivre dans une société du n'importe comment, du n'importe quoi, avec la brutalité et la violence, où chacun pourra décider pour lui-même, où on veut discuter avec des représentants. Les organisations syndicales, qu'on ne compte pas sur moi, parce qu'il y a eu des violences ici ou là, en l'occurrence à Air France, pour discréditer le combat syndical, qui a sa noblesse et qui a aussi son utilité.
Est-ce que
à condition, qu'à un moment on s'engage. Parce que si il n'y a jamais d'accord qui est signé, alors effectivement, certains, parmi les plus démagogues, diront, puisqu'il n'y a pas d'accord signé, ben, supprimons le paritarisme, supprimons les organisations syndicales, supprimons les institutions représentatives du personnel. Et c'est pourquoi il était si important qu'il y ait des accords depuis 2012. Et il y en a eu nombreux sur les plans sociaux, la formation professionnelle, sur les retraites complémentaires, et même sur le pacte de responsabilité.
François, voudrait vous parler de l'emploi.
Une question, au fond, il n'y a pas d'emploi sans croissance sur la reprise et la conjoncture. Cette reprise, elle prend pied un peu partout en Europe. On la voit en Italie, en Irlande, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, bien sûr. Sauf en France, qui est la lanterne rouge de la reprise européenne. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce décrochage français dans une Europe qui va mieux ?
L'Europe va mieux, la France aussi. Nous allons faire 1,1% de croissance, c'est-à-dire plus même.
Pas de quoi tirer un feu d'artifice.
Non, pas de quoi tirer un feu d'artifice, mais pas non plus de mettre des témoins sur ce qui a été.
Monsieur le Président, sur ce plan précis, est-ce que vous croyez que ceux qui nous écoutent ce matin, qui se sont réveillés, se disent ah bah oui, il a raison, le président, effectivement, la croissance, elle est bien là, on s'en aperçoit.
Non, mais on m'interroge sur la croissance. Je vous dis, elle était supérieure à ce qu'elle était l'année dernière, pas suffisamment. Parce que le lien entre croissance et emploi, il est direct. Si on n'a pas de croissance, on n'aura pas d'emploi supplémentaire et de baisse du chômage. Donc, toute la politique que je mène avec le gouvernement de Manuel Valls, c'est pour mettre plus de croissance. Qu'est-ce qui explique qu'on ait encore un écart par rapport à l'Allemagne qui va faire 1,5%
par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Irlande,
qui ont connu des récessions beaucoup plus importantes ces dernières années. Qu'est-ce qui explique ? On a une difficulté, c'est dans le bâtiment et les travaux publics. C'est là qu'on a connu des pertes d'emplois nombreuses. C'est là que nous devons remettre dispositions pour soutenir cette activité. Deuxième raison, c'est qu'on manque de souplesse. C'est-à-dire que quand il y a une reprise économique, il n'y a pas l'embauche qui vient nécessairement. D'où la réforme du Code du travail qui va être engagée et qui va permettre que nous puissions avoir, entreprise par entreprise, grâce au dialogue social, une meilleure adaptation. Et puis enfin, nous avons préparé l'avenir, j'évoquais le numérique, la transition énergétique, la France a de l'avance, la France est meilleure technologiquement que ses partenaires, à nous de lui donner toutes ses chances à l'économie française.
Monsieur le Président, comment expliquez-vous le contraste que ressentent beaucoup de gens entre le chef de guerre que vous êtes sur la politique étrangère, qui prend des décisions, et puis qui, lorsqu'il s'agit de la France, est un peu obligé de louvoyer pour préserver sa majorité. Comment pouvez-vous rassurer un pays qui a finalement l'impression d'être un peu gouverné par un congrès permanent du Parti Socialiste avec ses interminables querelles ?
Je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui il y ait quelques débats qui aillent jusqu'à moi de ce point de vue. Moi, quand j'ai à prendre des décisions, je les prends. J'ai pris des décisions quand il s'est agi d'alléger les cotisations sociales, les charges des entreprises. 40 milliards, ça n'avait jamais été fait. J'ai pris mes décisions lorsqu'il s'est agi de faire avancer le droit du travail pour que les entreprises aient plus de souplesse. J'ai pris mes responsabilités quand il s'est agi de réformer les retraites. J'ai pris mes responsabilités lorsqu'il s'est agi de réduire le déficit public.
Vous savez que la psychologie...
La société, elle se gouverne pas comme une armée. Parce que c'est ça la grande différence. Quand je décide pour l'extérieur, je demande au ministre de la Défense de préparer un certain nombre d'opérations, elles se font. Mais la société française, c'est pas une armée, elle obéit pas au doigt et à l'œil au chef de guerre que je serai.
Donc, il est
très important que les Français se disent que j'ai pris toutes les décisions et que je vais continuer à les prendre. Il y a un peu moins de 2 ans, je vais pas m'arrêter. Je ne suis pas lié à une échéance électorale qui mobiliserait toute mon attention. Non, je vais jusqu'au bout.
Un peu quand même.
Je vais jusqu'au bout réformer le pays, le faire avancer. C'est l'objet aussi de la conférence sociale d'aujourd'hui.
Prenons un exemple précis. Après les incidents Air France, Manuel Valls est très ferme, précis. Ceux qui ont fait ça sont des voyous. On ne peut pas justifier la violence physique par la violence sociale. Et puis, vous rencontrez...
Cette question m'a déjà été posée.
Attendez. Vous rencontrez un délégué CGT, vous dites qu'il faut aussi parler de la brutalité de certaines décisions patronales. Et là, on s'est dit, mais il y a une... confusion au sommet de l'État. Le Premier ministre dit quelque chose de précis, le Président de la République le contredit en partie, et est-ce que ça ne crée pas, dans l'opinion publique, le sentiment qu'il y a un désaccord entre vous et votre Premier ministre ?
Il n'y a aucun désaccord, la question m'a déjà été posée.
Non, mais pas sous cette forme-là.
Sur la condamnation de ce qui s'est passé à Air France, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Ceux qui commettent des violences, ceux qui s'attaquent à des salariés, parce que, en l'occurrence, c'était des salariés qui ont été molestés, doivent être punis. Et c'est le cas sur le plan disciplinaire dans l'entreprise, et ça sera
mais
la justice.
Mais pourquoi Manuel Valls, c'est vous, vous ne le dites pas de la même façon.
Mais par ailleurs, on m'interroge, puisque vous y revenez, on m'interroge sur des brutalités qui peuvent être commises, y compris par des décisions patronales. Et je vais fermer les yeux, et je vais rien dire. Quand une entreprise ferme et qu'elle met ses salariés à la porte sans aucune préparation, vous n'avez pas eu ces incidents qui se sont produits dans notre pays, ou quand certaines directions utilisent l'argent de l'entreprise à des fins.
La question porte sur Manuel Valls et vous.
Mais entre Manuel Valls et moi, vous n'arriverez pas à faire la moindre distinction. Ce que dit le Premier ministre m'engage. Et ce que dit le Président de la République engage le Premier ministre. Il y a un exécutif, c'est un bloc, avec le gouvernement.
Même après les régionales ?
Mais il n'y aura aucune distinction parce que c'est la politique que j'ai décidée et que le Premier ministre met en œuvre en coordonnant l'action gouvernementale.
Monsieur le Président de la République, vous restez avec nous puisque vous allez répondre dans quelques instants aux auditeurs d'RTL qui vous interrogeront au 3210. Merci d'être avec nous. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Le premier sera sans doute un militant socialiste qui veut vous interpeller finalement sur votre ligne politique. À tout de suite.